Sandra Viscardi.
La hausse des primes maladie pour l'an prochain s'annonce modérée. L'Office fédéral de la santé publique a fait le point ce matin sur l'évolution des coûts de la santé. Et comme chaque printemps, il est encore trop tôt pour connaître le montant de vos primes pour l'an prochain. Mais quelques tendances apparaissent déjà. Étienne Cocher, vous avez suivi cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude à ce stade?
Alors on sait, Sandra, que vos primes maladie ne vont pas baisser pour cette bonne raison que les prestations augmentent régulièrement. Vieillissement de la population, nouveaux médicaments, que ce soit du côté des médecins, des pharmacies, des hôpitaux, des analyses, des psys, des physios, des EMS, la liste est longue. C'est simple, dans aucun de ces domaines, il n'y a de baisse de coûts. La facture totale a augmenté de 4,7% l'an dernier et la tendance se poursuit. Alors, qui dit plus de prestations dit des primes maladie plus élevées, mais c'est pas automatique. Parfois, ces primes augmentent trop vite ou trop lentement, ce qui fait varier les réserves des assureurs. Et c'est là un des enseignements donnés aujourd'hui. L'an prochain, il n'y aura pas de réserve à combler, pas de retard à rattraper, contrairement aux dernières années. Après des hausses de primes de plus de 8% en 2024, de 6% en 2025, on devrait donc être en dessous, avec bien sûr des écarts entre cantons et assureurs. La semaine dernière, l'entreprise Comparis donnait sa propre prévision, 4% de hausse. La Confédération ne peut ni confirmer ni démentir ce chiffre. Prudence, au moins jusqu'en été, voire jusqu'à l'annonce des primes, c'est en septembre.
Étienne Cocher, en direct du Palais fédéral. L'Union syndicale suisse combattra par tous les moyens une loi qui pourrait permettre de réduire les salaires par voie législative au détriment de milliers de travailleurs dans les branches à bas salaire. Il s'agit de traduire dans la loi la motion adoptée d'un élu du centre. Il demande à ce que, là où elles existent, les conventions collectives de travail étendues l'emportent sur les règles cantonales en matière de salaire minimum. Les multinationales suisses doivent respecter les droits de l'homme et la protection de l'environnement en Suisse et à l'étranger et être tenues responsables des dommages causés. La deuxième initiative sur la responsabilité des entreprises vient d'être déposée à Berne avec plus de 287 000 signatures. Rappelons qu'il y a 5 ans, une première initiative avait obtenu en vote populaire la majorité du peuple, mais pas celle des cantons. La reprise d'Hôtel-Plan par Dertour sous la loupe de la Comco, la commission de la concurrence. Cette reprise, dont les discussions ont été finalisées plus tôt cette année, va mener à la création du plus grand voyagiste de Suisse. De quoi Katia Scher se demandait s'il n'y a pas un risque lié à cette position de dominant sur le marché.
Selon la Comco, il existerait déjà des indices d'une position dominante. Parce que ce sont deux mastodontes qui s'unissent. Hôtel-Plan n'a pas seulement sa propre marque, mais compte aussi Migros Vacances, Travel House et Tourisme pour tous. Dertour, pour sa part, est présent en Suisse sous les marques Helvetic Tours et Kuoni. Et à eux deux, ils comptent plus de 150 agences en Suisse. Face à cette position très forte, la Comco craint un manque d'alternatives pour les consommateurs. Auront-ils suffisamment d'autres choix pour faire leurs réservations? Y aura-t-il aussi une concurrence suffisante si le nouveau géant ont décidé de faire grimper ses prix? Et c'est à ces questions que doit répondre la Comco, qui a désormais 4 mois pour finaliser son examen approfondi.
Les Suisses ont la bougeotte depuis le début de l'année. Les agences de voyage romandes ont enregistré 5% de réservations supplémentaires par rapport à l'an dernier. Les destinations phares de l'été, la Grèce, l'Espagne et la Turquie, 87% des romands privilégient Genève-Cointrin pour leur départ. Une grosse avalanche s'est produite cette nuit sur les hauts de Blatten dans le Lütschental, village évacué sous la menace de la montagne. Mais cette coulée de glace, de roches, de neige et d'eau n'a pas atteint le fond de la vallée. Le front du glacier de Birch avance désormais de 10 mètres par jour, poussé par un éboulis de 9 millions de tonnes. C'est désormais inéluctable. Moustique-tigre va se répandre dans toute la vallée du Rhône. Les autorités valaisannes l'ont annoncé ce matin. Sa population augmente sensiblement dans le Bas-Valais. Ce moustique peut être vecteur de maladies infectieuses comme le virus de Zika, la dengue ou le chikungunya. En Suisse romande, sa présence a été pour l'instant enregistrée sur les cantons de Vaud, Berne, Genève et donc en Valais. Alors pour éviter des épidémies, plusieurs cantons romands font appel à la population afin qu'elle signale tout moustique suspect et surtout qu'elle adopte des gestes adéquats selon Camille Pitlou, biologiste au service valaisan des forêts, de la nature et du paysage.
La population doit prendre le réflexe de vider toute petite accumulation d'eau. Ça peut être des arrosoirs, des soucoupes de pots de fleurs, des bâches peuvent des fois contenir de l'eau, des systèmes de récupération d'eau de pluie. S'ils sont pas fermés hermétiquement, ça peut également être des gîtes à moustique-tigre. Et contrairement à ce que de nombreuses personnes croient, le moustique-tigre ne s'établit pas dans des biotopes naturels car il y a des prédateurs et de la compétition et il ne peut pas survivre dans ces milieux-là. Par contre, rentre dans des petites accumulations d'eau mimées par ces pièges-là, il peut très bien s'établir et se reproduire.
Camille Pitlou avec Flore Ducey et Mathias Delétro. Une équipe de l'EPFL de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich a mis au point une serviette hygiénique intelligente capable de détecter des maladies comme le cancer des ovaires ou l'endométriose à un stade précoce. Les scientifiques ont équipé la serviette d'une bandelette de tests similaire au procédé utilisé pour les autotests Covid. Lorsque le biomarqueur dans le sang menstruel entre en contact avec un anticorps spécifique, cette bande colorée apparaît. L'intensité de la couleur varie en fonction de la concentration de la protéine correspondante. Les résultats peuvent être lus à l'œil nu ou alors à l'aide d'une application qui a été spécialement développée à cet effet. Pas mal de soleil autour du Léman et en Valais, un peu moins ailleurs. Il fera 21 degrés cet après-midi, 22 demain sous un ciel toujours partagé en matinée et plutôt gris en deuxième partie de journée avec même quelques précipitations à partir du nord-ouest.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lucerne-Chiasso, le tunnel du Gothard est fermé dans les deux sens à la suite de la panne d'un poids lourd. Des bouchons s'étendent de part et d'autre de l'ouvrage.
Les Digoneurs sont de retour pour vous jouer le très bon tour. Nous sommes cette semaine à Plan-les-Ouates, canton de Genève. Plus exactement, à la Renfil, brocante solidaire qui pratique autant la réinsertion professionnelle qu'une mission sociale et environnementale, puisque moult objets de seconde main sont disponibles ici. Il y aura même un défilé de mode avec des vêtements créés par l'atelier couture installé ici. Ce sera le soir du jeudi 19 juin et on compte sur votre présence dès 18h30. La Renfil, c'est une des branches du CSP Genève, le centre social protestant genevois dont nous recevons le directeur Alain Boll. Il taille la bavette avec 4 décodeurs et décodeuses, tout ce qu'il y a de plus stylé en la personne de Julie Conti, Thierry Romanos, Format et Pascal Vincent. Ouh, vous pouvez l'entendre tous les vendredis sur France Inter, la voir tous les mardis soirs à la Petite Loge à Paris et bien sûr à Genève, parce qu'elle n'oublie pas la Suisse, elle aime sa ville. Ce sera 13-14 juin au Caustic Comedy Club à Carouge. Et bien sûr, chez nous régulièrement sur RTS Première, c'est Julie Conti qui prend le contrôle des décodeurs pour les prochaines minutes.
Du coup, on va changer un petit peu du portrait classique et on va plutôt jouer avec Alain. Alain, vous avez envie de jouer avec moi ?
Oui.
Ouais, alors on va se faire un petit question pour un champion. Vous êtes prêts ?
Oui.
Yeah. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans Question pour un champion. Je suis Julie Lepers et aujourd'hui nous jouons avec Alain Boll. Alain, vous avez confié dans votre questionnaire que vous aimiez le vin bio, la marche et les compagnes de vos enfants. J'en conclus que vous êtes alcoolique, dépressif et polygame. Félicitations à vous, Alain. Le thème de notre jeu, Alain, aujourd'hui sera les objets qu'il ne faut surtout pas acheter en seconde main. Je vous donnerai la définition et dès que vous avez la réponse, vous criez. Je voulais un buzzer, mais nous n'avons pas les budgets car nous sommes sur le service public, je vous rappelle. Vous êtes prêts, Alain ? Est-ce que vous avez besoin de boire un petit verre avant ? Vous êtes en manque ou ça va ? On peut démarrer ?
Non, vous pouvez y aller.
Allez, on y va ! Attention ! Go ! Je suis mou, j'ai absorbé toutes les nuits d'un inconnu, je suis vaguement de l'humidité et je sens beaucoup le regret. Je suis...
Un matelas.
Bravo, un matelas. Tout à fait, c'est magnifique. Ok, on enchaîne, on y va. Allez, portez sur les fesses d'autrui. Je suis fait de coton, de dentelle ou de panique. Mon élastique est fatigué et ma dignité intacte. Qui je suis ? Je suis...
Une culotte.
Voilà, bravo. Une culotte de seconde main. C'est vraiment dégueulasse, ne redonnez pas ça. On y va, on enchaîne avec la prochaine. Allez, on y va. J'ai vibré pour quelqu'un d'autre. J'ai été nettoyée au vinaigre blanc et je fonctionne encore par intermittence. J'ai besoin de piles. Je suis...
Un sextoy.
Oui, un sextoy vintage. Non, ça ne se partage pas. C'est vraiment crado. Allez, on enchaîne, on y va. J'ai vu des dents, beaucoup de dents. Je suis poilu, électrique et probablement hanté. Je suis une...
Brosse à dents.
Oh, une brosse à dents d'occasion. C'est vraiment dégueulasse. Ça ne s'achète pas l'occasion, ça. Allez, on enchaîne. J'ai connu des choses grasses, sales, parfois non identifiées. Mon couvercle est fendu et mon propriétaire me trouve encore vaillant. Je suis...
Tupperware.
Tout à fait, un Tupperware de 1998, orange translucide pour être précise. Alors la dernière question, Alain, est-ce que vous êtes prêt?
Oui, oui.
Alors on y va. Allez, on Je va. Suis un tube ouvert depuis 7 ans, dans lequel on distingue 3 phases, solide, liquide et mystique. Je suis...
Une crème hydratante.
Oui, bravo. Une crème hydratante en vente sur Vinted. Oh, c'était un sans faute pour Alain. Félicitations Alain, vous remportez l'encyclopédie des objets dont tout de personne ne veut. Un ouvrage essentiel illustré en noir et blanc et dégoût. 12 tomes pour 8 kilos de regrets. 40 000 entrées sur tout ce qui traîne dans les fonds de tiroir depuis 1974. Imprimé sur un papier qui colle légèrement, comme les objets qu'il décrit. Et préfacé par Monique, 82 ans, qui a tout gardé au cas où.
Ouais.
Bravo. Les décodeurs toujours à la renfile ici à Genève. Une émission pour la bonne cause, une semaine pour la bonne cause et une question que voici pour vous Alain Bol, notre invité. Parti du Nord Vaudois, Antoine Bodmer est arrivé fin mars au Sénégal. Mais quelle était la particularité de son voyage? Voilà la question. Première réponse, Pascal Vincent.
Vous qui avez travaillé à la Poste, Alain Bol, vous devez être au courant de cette histoire. Antoine Bodmer, dont nous tairons le nom pour respecter à sa demande son anonymat, est un cadre haut placé à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En début d'année, il a voulu prouver que les douanes suisses étaient plus sûres et hermétiques que jamais. Et pour cela, il s'est tout simplement fait emballer dans un carton et envoyé par la Poste d'Yverdon au 144 rue Félicien Jambaré, 13 500 Dakar. À sa grande surprise, il est arrivé fin mars, sans le moindre contrôle, mais totalement déshydraté et sous-alimenté. Amer constat pour cet homme intègre qui a aussitôt démissionné de son poste en affirmant, je le cite, qu'après cette expérience, il était temps pour lui de changer de boîte.
Oh,
je cite, hein. Je le cite.
Ah, c'est pas votre jeu de mots.
Ah bah non.
Ah, c'est de sa faute à lui.
Ah bah oui.
Thierry Romanence.
Oui, c'est-à-dire que Antoine Bodmer est un jeune homme de 19 ans qui était à Thierry, hein. Ce soir-là, hein, comme beaucoup d'autres à cette période. Quand je dis beaucoup d'autres, c'est beaucoup d'autres soirs, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Thierry est un village connu, entre autres, pour sa revue satirique, hein, qui a 40 ans d'histoire, revue à laquelle il participait donc, Antoine Bodmer, comme comédien et chanteur. Et un soir, après le spectacle, comme chaque soir, il s'apprêtait à rentrer chez lui, à Combremont-le-Petit, en vélo musculaire. Et là, il s'est complètement planté. Au lieu de prendre à droite à la sortie du village, il a pris à gauche. Pourquoi? Eh bien, la fatigue du spectacle, la bière de trop, peut-être les deux à la fois. Bref, il part à gauche et il pédale longtemps. Il traverse Boulans, Sugnan, Polier-le-Grand. Il sent en lui-même que ce n'est pas son chemin habituel. Mais il est porté par le succès de la soirée, la bière de trop, peut-être les deux à la fois. Alors il pédale Antoine, il pédale Lausanne, Morges, Genève, le temps ne compte plus, il est heureux Antoine, ou complètement bourré, ou les deux à la fois. Et c'est ainsi qu'en mars, il arrive au Sénégal. La particularité de son voyage à Antoine Bodmer, c'est qu'il n'était pas du tout prévu.
Bien joué.
Pas facile. Hein.
Format, je suis curieux de vous entendre.
Parti du Nord Vaudois avec sa voiture dans la nuit du 2 janvier, Antoine s'était fixé un défi aussi audacieux qu'improbable, rejoindre Martigny en se fiant uniquement aux étoiles. Sans GPS, sans carte, sans même demander son chemin, il voulait faire comme les anciens navigateurs, disait-il tout en cherchant l'étoile Michelin. Car Antoine, disons-le gentiment, n'est pas exactement le sens de l'orientation le plus affûté du canton. Après quelques détours astraux, pensant suivre l'étoile du berger alors qu'il suivait le gyrophare d'une dépanneuse, après quelques erreurs d'interprétation cosmique, confondant la Voie lactée avec le givre sur son pare-brise. Il a traversé la France, l'Espagne, il a pris un ferry, pensant remonter le Rhône, et s'est retrouvé fin mars au Sénégal. C'était presque Martigny à ça, hein. À ça, ouais. Non, mais c'est la faute des étoiles. Antoine l'a dit, c'est forcément la faute des étoiles. Et entre nous, faut se méfier des gens qui parlent trop des étoiles, hein. Moi, je me méfie toujours ces mecs qui disent « Pour toi, ma chérie, je pourrais décrocher les étoiles. » Ouais, ouais, ben, apprends déjà à décrocher un soutien-gorge.
Bim. Julie Conti.
Antoine Bonnemer, vaudois de 19 ans, a entrepris un incroyable voyage vers l'Afrique de l'Ouest malgré son handicap moteur, en pédalant sur son vélo couché alors que ses jambes peinent à le porter. Donc Antoine Bonnemer a appelé son périple jusqu'au Sénégal, je cite, « son voyage branlant ». Alors j'espère qu'il faisait référence à l'instabilité sur le vélo et pas à l'activité à laquelle il s'adonnait pendant les pauses. Hein, Et je trouve que ça met toujours la pression en tant que valide de voir des personnes en situation de handicap accomplir de tels exploits, qu'ils se donnent comme un fou pour parcourir des milliers de kilomètres à vélo et nous on est là avec des jambes parfaitement fonctionnelles qu'on gaspille en restant assis des heures à mater Netflix en bouffant des chips au paprika. Non, mais quand il y a des performances comme ça en e-sport, on entend souvent des commentaires de valides du genre Thierry qui pendant l'apéro peut te lâcher un hey, « franchement les mecs en fauteuil chapeau hein. ». Même moi, j'y arriverai pas. Bah, évidemment, Thierry, j'y arriverai pas. Évidemment que t'arriverais pas. Tu fumes un paquet par jour, ton cholestérol se répand plus vite que ta sauce tartare, et ton seul rapport au sport, c'est mater la Challenge League en slip en te grattant les boules. Mais bon, je vais arrêter. J'ai pas envie de faire des blagues sur les personnes en situation de handicap qui accomplissent des exploits parce que je suis pas Artus et du coup, moi, c'est un plan à me faire cancel et j'ai pas. Moi, j'aimerais bien avoir une carrière avant de la saboter. Ah.
Bon. Je rappelle la question.
Pourquoi je me suis assis à côté d'elle?
Ah ouais, bah ouais. Qui cherche trouve.
Ah, c'est ça. Je me rappelais pas que tu te rappelais de tout ça. Ça fait plaisir. J'ai arrêté de fumer il y a un mois et demi.
La question Alain Bol était parti du Nord Vaudois. Antoine Bonnemer est arrivé fin mars au Sénégal. Quelle était la particularité de son voyage? Pour Thierry, c'est que ce voyage n'était pas du tout prévu. Voilà. Il rentrait de Thierry en tranquille. Il voulait aller à Combremont-le-Petit. Il a fini au Sénégal sur son vélo. Pascal nous dit que c'était un officier des douanes qui s'est fait emballer dans un carton. C'était ça la particularité, ce qu'il l'a fait en carton, son voyage. Format nous dit, c'était en voiture au départ. Il voulait rejoindre Martigny en se fiant aux étoiles. Voilà, on se fie aux étoiles, sa particularité selon le format de ce voyage. Et puis Julie nous dit, la particularité, ce n'est pas rien, c'est qu'il a un handicap moteur. Il tient pas bien sur ses jambes et malgré ça, eh ben, il est parti à coup de pédale, grand coup de pédale jusqu'au Sénégal.
Julie Conti nous raconte une très belle histoire. J'ai envie d'y croire.
Elle n'a pas fini votre phrase, hein?
Non. Voilà.
Je sentais qu'il allait partir ailleurs, genre au Sénégal, non.
C'est tout.
Oui, Antoine Bonnemer est bel et bien parti du Nord Vaudois le 15 septembre pour arriver au Sénégal en mars dernier à la Force des Meulets. Il était à vélo. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, Gaillard Vaudois de 19 ans, ça c'était vrai. Il a un handicap, des difficultés motrices qui font que ses jambes peuvent à peine le porter. Donc l'exploit est vraiment encore plus colossal. Il était sur un de ses vélos couchés. Chaque crevaison était une galère. Les chaleurs extrêmes, on n'en parle même pas. Rien que monter sa tente avec son handicap, il disait que ça lui prenait une heure chaque soir avec des mains hésitantes. Enfin voilà. Voyage branlant aussi pour ça, quoi. Donc il a de l'humour. Non, mais il est incroyable. Il l'appelle comme ça. Il appelle son voyage branlant. Personne admirable. Je connais pas, mais il a l'air.
Voilà. Salut.
Il venait d'avoir sa matu gymnasiale et il a représenté Villers-Burquin loin à la ronde. Il a ajouté dans le 24 heures, quand je suis parti, j'étais adolescent. Mais maintenant, je me sens adulte. Oh. Incroyable. Alain Bol, ça vous rappelle des souvenirs de votre voyage à vélo à vous à l'époque? Parce qu'il y a eu un petit. Alors c'était un seul continent, je crois, mais c'était pas mal quand même. Vous avez pas traversé la France à vélo, un truc comme ça?
Ouais, mais alors je devais avoir 17, 18 ans. J'ai effectivement traversé la France à vélo.
Qu'est-ce qui vous a pris?
Le centre protestant de vacances nous proposait des vacances. Et puis moi j'étais fou de vélo. Donc je me suis embarqué dans une traversée de la France à vélo. J'ai adoré ça. J'ai une anecdote. Roquefort. Passage par les caves, transporté jusque sur la plage un morceau de roquefort bien transpirant dans une boîte en Sagex.
Mais si,
je l'ai fait. Je suis tombé dans le roquefort quand j'étais petit, c'était impossible de résister à ça. C'était absolument...
Mais il était bon, genre, il était pas...
Voilà, le roquefort, ça tient, ça transpire un bon coup. Voilà.
Oh là là.
Je l'ai fait.
Parce qu'Antoine Medmer, il décrivait des crises de vomi qu'il avait pendant le voyage. Vous avez pas eu des trucs comme
non,
ça?
Non, non.
Ouais, c'était tranquille. Vous avez fait combien de temps sur la route?
3 semaines.
Ouais, quand même, intense.
Ouais, ouais. Ouais. À l'époque, les camps du CPV, c'était 3 semaines. Ouais,
surtout si vous rajoutez du rush du Roquefort, c'est solide. Bien joué. Bah, on vous félicite non seulement pour ce voyage, mais pour votre 9e point de la semaine. Bravo!
California, I'm hoping it's going to come.
Les dix codeurs sur RTS Première.
Les décodeurs à la Renfile à Genève. Aujourd'hui, mardi 27 mai, nous fêtons l'anniversaire de la naissance d'Amelia Bloomer. C'est une militante féministe qui est née le 27 mai 1818 dans l'État de New York. La question c'est, quel combat a rendu célèbre Amelia Bloomer? Première tentative de réponse, Julie Conti.
Bonjour, bonjour mon petit Fantin, je suis Marie Do, la cousine par alliance de Julie. Oh, et cette zadiste mal peignée m'a demandé de répondre pour elle à cette question. Alors, Amelia Bloomer est devenue célèbre car elle est la première femme à avoir remporté un combat de boxe contre un homme. Fantin, vous trouvez cela sûrement super, hein, je devine à votre vilaine chemise bariolée violette que vous êtes un homme moderne et déconstruit. Mais quelle horreur, quelle horreur! Laissez-moi deviner, Fantin, vous faites votre propre lessive et vous passez l'aspirateur, hein, espèce de nuque. Nous vivons dans une époque de dégénérés. Quand on m'a dit qu'ils avaient remplacé Marie Riley, la présentatrice toute coloriée, par un homme, je me suis dit, hourra, il était temps qu'elle ait réussi de laisser une émission du service public aux mains d'une femme et de ses humeurs. Mais là, je vois qu'à la place, ils nous ont collé un garçon avec l'élan viril d'un pot de crème fouetté dans une porcelaine de Sèvres. Non mais, ne le prenez pas mal, Fantin. Mais on le sent tout de suite que vous n'avez pas encore traversé la rude épreuve d'un week-end de chasse.
Non, effectivement.
Mais quelle est cette obsession moderne de vouloir mélanger les genres, Fantin? Vous devriez faire des trucs de bonhomme, comme allumer des barbecues, changer des roues et péter au lit. Quant à cette Amélia, elle aurait dû raccrocher ses gants de cuir pour se concentrer sur son ménage et ses prières. Moi, je dis vivement le retour du bon goût, des tabliers à midonner et du respect du patriarcat. Enfin. Oh.
Je m'excuse pour tout. Sans transition, Pascal Vincent.
En 1818, dans l'État de New York, après un combat acharné et quelques ennuis judiciaires, Amelia Bloomer a été la première femme autorisée à participer à un barbecue, justement. Elle a très vite été surnommée Ève, car médiatiquement, elle est née d'une côte de bœuf d'Adam. Adam Bloomer, son mari qu'elle a mangé. Enfin, elle a mangé la côte, pas.
Ah,
pas
d'accord.
Aujourd'hui, la marque de grill Bloomer est la plus vendue aux États-Unis. Et c'est grâce à elle et à son histoire.
On prend note. C'est bien renseigné, votre histoire.
Ah, ben oui, j'en ai.
Merci, Pascal. Thierry Romano.
Oui, Amelia Bloomer, avant d'être une militante, est une maîtresse d'école et c'est grâce à elle qu'à New York, dès 1835, les filles auront droit à l'enseignement des mathématiques. Voilà. Donc non seulement mesdames, mais nous, la société entière, nous devons quoi? Bah nous pouvons. Enfin, on lui doit quelque
chose. Pas facile
chose
à dire. Hein.
Non, parce que regarde, j'ai de la peine à me relire, à vrai dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on lui doit quelque chose, quoi. Donc c'est grâce à elle que tout le monde peut bénéficier de l'enseignement des mathématiques et notamment donc la gente féminine. Voilà. Merci
beaucoup,
à Amélie.
Je haïssais les maths. Merci, Amélia. Et enfin, format.
Amelia Bloomer est devenue célèbre parce qu'elle a rendu aux femmes le droit de respirer dans leurs vêtements. À l'époque, les robes avaient plus de couches que les oignons et elles étaient sur les corps, lourds comme un cheval mort. Amelia Bloomer a déclaré la guerre à ce dress code en inventant le bloomer, une sorte de pantalon large et confortable avec une jupe par-dessus. Et ça, c'était une sacrée révolution. Alors, c'est quoi les grandes révolutions féministes aujourd'hui? Parce que des combats à mener, ben il y en a. Alors moi, je me suis renseignée à la source. J'ai voulu trouver des informations solides, là où sont répertoriés tous les combats féministes actuels, dans un bouquin profondément engagé. Je vous parle bien sûr du magazine Marie Claire. Alors, page 4, apprendre à s'aimer comme on est. Oh bah super, trop bien, je continue. Page 5, comment perdre 5 kilos avant l'été? Ah oui, génial. Et toutes les pages suivantes, c'est sur le poids, la cellulite, les régimes. Non mais c'est complètement fou. En fait, le poids, c'est le seul sujet principal qui concerne les femmes. C'est vraiment pénible. C'est pour ça que nous, on a envie de mentir sur notre poids. Eh ben moi, il y a 2 semaines, j'ai organisé l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure copine. Pour l'activité, ben, j'étais obligée de lui demander son poids. Et puis, elle a triché de 10 kilos. Ok, bon. Le problème, c'était que c'était pour une initiation au saut à l'élastique. Alors, du coup, je cherche une nouvelle meilleure copine, si ça intéresse quelqu'un.
Du coup, il y a l'enterrement bientôt. C'est terrible. Terrible histoire. Alors, elle nous parlait d'un combat vestimentaire, pas seulement de saut à l'élastique, d'un combat vestimentaire format pour cette Amelia Bloomer dont on cherche l'importance dans l'histoire. Combat vestimentaire, un pantalon qui permettait de mieux respirer, dixit format. Thierry nous dit que c'est une personne à qui on doit l'enseignement des maths, notamment pour les femmes.
qui n'avait pas le droit à l'époque apparemment. Pascal nous dit que c'est la première femme autorisée à participer à un barbecue, d'où la marque de barbecue Bloomer. Et puis Julie, enfin presque, nous
Marido.
Dit... Oui, pardon, ouais, bien entendu. Nous dit qu'il s'agit de la première femme à battre un homme à la boxe. Et je rappelle que vous avez droit à deux jokers. Parce que je vous sens un peu hésitant, Alain. Vous avez droit à deux jokers du public pendant la semaine. Vous la tentez quand même.
Mais j'aime bien l'idée du combat.
Oui. Du combat de boxe ou vestimentaire?
Non, pas de boxe. Vestimentaire.
Bravo!
Oui, monsieur! Absolument vrai, Amelia Bloomer est devenue célèbre suite à son combat pour la réforme vestimentaire des femmes. Elle défendait, je cite, « un ensemble composé d'une jupe courte portée sur un pantalon à la turque qui permettait une plus grande aisance que les longues robes de l'époque ». Et ces espèces de culottes bouffantes, eh ben, elles ont pris son nom puisqu'on appelle ça des Bloomers. Effectivement, une tenue portée dès 1890, notamment dans la pratique du vélo. On revient toujours et encore au vélo. Merci Amelia et bravo pour ces 10 points tout ronds, Alain Beul. Et c'est ainsi que se clôt notre émission Dicodeuse du mardi, ici à Plan-les-Ouates, canton de Genève, dans la brocante La Renfile. Non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien l'endroit où aura lieu le 19 juin à 18h30, un défilé de mode de dingue avec des créations de l'atelier couture de la maison. 10 mois de boulot pour cet atelier qui fait partie du service insertion du CSP, service qui chaque année permet à une centaine de personnes d'être actives. Il y a de la réinsertion professionnelle. Ces gens qui ont travaillé pour le défilé, je crois que c'était 3 jeunes femmes, 3 jeunes hommes. Est-ce qu'ils sont 6, c'est exact? Ouais, exact. Ils ont été initiés à des techniques de couture, bien sûr, mais aussi d'upcycling, donc de transformation pour créer des pièces, etc. Ils ont appris sur le tas avec des matériaux récupérés tout ici au sein de la Renfile. Ils ont défini eux-mêmes la scénographie du défilé. Ils ont invité leurs proches pour faire modèle. Enfin voilà. Si jamais il y a des infos sur la page Instagram de la Renfile, il y a notamment une vidéo avec les coulisses un peu de la préparation de ce défilé. On vous invite à voir tout ça. C'est donc le 19 juin. Merci à vous, Alain Beul, pour l'émission du jour. C'était chouette.
Ouais. Je confirme cette chouette.
Non, il confirme vraiment. Il est pas sarcastique. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre social protestant Genève. Merci d'ailleurs à tout le CSP de Genève et à la Renfile pour l'accueil. Merci à vous, public. Vous étiez super. Est-ce que vous jouez aussi bien que vous applaudissez? On va voir le classement tout de suite parce que on rappelle qu'en fin de semaine, il y aura un ou une vainqueur qui repartira avec un petit cadeau symbolique. Alejandro se fait un peu rattraper par France, mais pour l'instant, il est le plus rapide. Il est loin devant. Avec 7672 points, Alejandro qui se bat. On le rappelle pour cette superbe radio Bluetooth à mettre sous la douche.
Oui.
C'est juste énorme. Et si vous applaudissez ça, vous êtes un public incroyable. Respect. C'est nos babioles à nous, voilà. Et puis, merci évidemment à nos collègues qui bossent dur hors micro pour que tout se passe bien. Merci enfin à nos décodeurs de la semaine, Pascal, Vincent, Julie, Conti, Thierry, Romanon, c'est format. On se retrouve avec tout ce beau monde demain et ça va être bien. C'était les décodeurs, ciao. Belle suite de journée, ciao!
L'heure avec RTS Première.
Et le journal de la mi-journée vous est présenté par Guillaume Rey. Bonjour!
Bonjour, les coûts de la santé continuent leur hausse. L'Office fédéral de la santé publique envisage une nouvelle augmentation des primes maladie pour l'an prochain, mais elle devrait être modérée. Les voyagistes suisses se dirigent vers une année réussie. Côté roman, les réservations sont en hausse. Malgré des budgets parfois serrés, on semble tenir à nos vacances. Quelles sont les tendances? Le vice-président de la Fédération suisse du voyage sera avec nous. Dans ce journal, on parlera aussi politique avec la prestation de serment des nouvelles autorités cantonales à Neuchâtel et l'UDC genevoise qui a désigné son candidat dans la course au Conseil d'État. Ukraine, Gaza, l'Allemagne changent de ton sur le plan international. Le nouveau chancelier Friedrich Merz n'hésite pas à bousculer les tabous. On rejoindra notre correspondante à Berlin. Le moustique tigre déploie ses ailes en vallée, une espèce déjà présente dans plusieurs cantons romands. Et pour éviter des épidémies, la population a son rôle à jouer. Et puis une BD sur l'intelligence artificielle, au menu de notre grand entretien de fin de journal. L'histoire de deux amis pas d'accord sur l'impact de l'IA sur le plan climatique. Un livre didactique, drôle et imagé pour mieux cerner les enjeux presque philosophiques autour de cette technologie. Météo, un temps plutôt ensoleillé ces jours. Bulletin complet en fin de journal. Soyez les bienvenus dans 12h30. une hausse des primes maladie pour l'an prochain, mais qui s'annonce modérée. L'Office fédéral de la santé publique a fait le point ce matin sur l'évolution des coûts de la santé. Comme chaque printemps, il est encore trop tôt pour connaître le montant de vos primes pour l'an prochain, mais quelques tendances apparaissent déjà. Étienne Cochère, qu'est-ce qu'on a avec certitude à ce stade ?
Ce qu'on sait, Guillaume, c'est que vos primes maladie ne vont pas baisser pour une simple et bonne raison. Les prestations augmentent entre vieillissement de la population, nouveaux médicaments, que ce soit du côté des médecins, des pharmacies, des hôpitaux, des analystes, des psys, des physios, des EMS, la liste est longue. C'est simple, dans aucun domaine il n'y a de baisse des coûts. La facture totale a augmenté de 4,7% l'an dernier et la tendance se poursuit.
Et qui dit plus de prestations dit donc des primes maladie plus élevées.
Alors ça n'est pas automatique, hein. Parfois les primes augmentent trop ou pas assez, c'est une question de calcul, ce qui fait varier les réserves des assureurs. Et c'est là un des enseignements donnés aujourd'hui par l'OFSP, l'an prochain il n'y aura pas de réserve à combler, pas de retard à rattraper, contrairement aux dernières années. Après donc des hausses de primes de plus de 8% en 2024, de 6% en 2025, on devrait être en dessous, avec bien sûr des écarts entre cantons et entre assureurs. La semaine dernière, l'entreprise Comparis publiait une prévision 4% de hausse. La Confédération ne peut ni confirmer ni démentir ce chiffre, prudence jusqu'aux estimations en été, voire jusqu'à l'annonce des primes en septembre.
Et pendant ce temps, est-ce qu'il y a des nouvelles mesures pour limiter cette hausse ?
Vous n'imaginez pas la quantité de contrôles qui sont faits en continu par l'OFSP, mise à jour du catalogue de prestations, réexamen des tarifs médicaux. Ajoutez à cela les réformes. 4 chantiers législatifs seront bientôt terminés. Par exemple, celui pour appliquer le financement uniforme accepté par le peuple suisse l'an dernier. Là-dessus, encore récemment, la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider lançait une table ronde avec tout le secteur pour économiser 300 millions de francs par an sur un total de plus de 50 milliards à charge de l'assurance maladie. Vous l'aurez compris, à Berne, on parle de maîtrise, de répartition, pas vraiment, voire pas du tout, de baisse des coûts de la santé.
Merci Étienne Cochère en direct de Berne. Et puis à Berne, toujours, l'Union syndicale suisse a fait part ce matin de son inquiétude concernant une attaque sur les bas salaires. L'affaire remonte à l'adoption par le Parlement d'une motion qui demande que les conventions collectives de travail étendues l'emportent sur les règles cantonales en matière de salaire minimal. Les chambres se pencheront désormais sur la concrétisation du projet, un projet que l'USS entend donc combattre de toutes ses forces. On rappelle que 5 cantons ont déjà introduit un salaire minimum. Il s'agit de Genève, Neuchâtel, le Jura, Belleville et le Tessin. Les multinationales suisses doivent respecter les droits de l'homme et la protection de l'environnement en Suisse et à l'étranger et être tenues responsables des dommages causés. La deuxième initiative sur la responsabilité des entreprises a été déposée ce matin à Berne, munie de plus de 287 000 signatures. En 2020, un premier texte en ce sens avait obtenu la majorité du peuple, mais pas celle des cantons. La Comco, à présent, la commission de la concurrence se penche sur la reprise d'Hôtel-Plan par Dertour, une reprise dont les discussions ont été finalisées plus tôt cette année. Elle va mener à la création du plus grand voyagiste de Suisse. De quoi se demander s'il n'y a pas un risque lié à cette position de dominant sur le marché, Katia Scher.
Selon la Comco, il existerait déjà des indices d'une position dominante. Parce que ce sont deux mastodontes qui s'unissent. Hôtel-Plan n'a pas seulement sa propre marque, mais compte aussi Migros Vacances, Travel House et Tourisme pour tous. Dertour, pour sa part, est présent en Suisse sous les marques Helvetic Tours et Kuoni. Et à eux deux, ils comptent plus de 150 agences en Suisse. Face à cette position très forte, la Comco craint un manque d'alternatives pour les consommateurs. Auront-ils suffisamment d'autres choix pour faire leurs réservations ? Y aura-t-il aussi une concurrence suffisante si le nouveau géant ont décidé de faire grimper ses prix? Et c'est à ces questions que doit répondre la Comco, qui a désormais 4 mois pour finaliser son examen approfondi.
Et tourisme, toujours l'été approche, vous avez peut-être déjà réservé vos vacances, mais où, quelles sont les tendances cette année pour les romans? La Fédération Suisse du Voyage a fait ce matin un point sur l'état du marché actuel. Bonjour Stéphane Jaillet.
Bonjour.
Vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Alors on se dirige vers une année réussie pour les voyagistes suisses. En Suisse romande, les réservations sont supérieures d'environ 5% par rapport à la même période de l'an dernier. On parle souvent de baisse du pouvoir d'achat. Cet an, ça veut dire que c'est pas forcément sur les vacances que les gens coupent?
Non, c'est un des budgets, heureusement pour notre fêtière et pour nos membres, et les agences de voyage, c'est vrai que c'est un budget qu'on coupe rarement, ou alors si on le coupe, on réfléchit bien à comment on va le couper.
Ouais, c'est-à-dire quoi, les gens optent peut-être pour des vacances moins chères, des options moins chères, ou peut-être partent moins longtemps?
Alors là, on a un petit peu de chance au niveau du marché, puisque le franc suisse est un franc fort, donc ça permet d'obtenir quelques prestations peut-être meilleures que ce qu'on avait l'habitude d'avoir, mais c'est vrai qu'on préfère peut-être voyager 2, 3, voire 4 fois, donc de couper, de segmenter un petit peu l'année, que de faire des longs séjours, mais c'est vrai que le pouvoir d'achat, alors ok, il baisse, mais à l'étranger, il peut être en hausse.
Votre fédération le relevait tout de même, la sensibilité au prix de la clientèle est plus importante, en particulier pour les familles.
Oui, alors la famille, vraiment, son objectif, c'est déjà de réussir ses vacances. Donc, c'est pour ça que on est content, en tant qu'agence de voyage, membre de la Fédération Suisse, de les coacher à quelque part, ou en tout cas de comparer aussi tous les tarifs. Mais c'est vrai que les vacances ne doivent pas se rater. On a envie d'avoir les tongs, on a envie d'avoir les pieds dans le sable, et puis de passer des bons moments en famille, de se retrouver, vu que on a quand même une pression au quotidien par rapport, outre à l'économie, mais aussi à la famille en général.
Vous parliez des pieds dans le sable, la Grèce, l'Espagne, la Turquie figurent dans le top 3 des destinations de vacances. On cherche plutôt le sud, le soleil, l'attrait pour la mer, ça reste un incontournable.
Oui, alors le podium est pas super sexy parce qu'il n'y a pas de nouveaux continents, de nouveaux pays ou de nouvelles destinations qui émergent. Ce qu'on peut en tout cas identifier, c'est qu'il y a quand même une augmentation par rapport au nord, donc à la Scandinavie, aux pays du nord, outre le fait du réchauffement climatique, mais aussi de nombreux feux de forêt aussi sur des pays européens, etc. Et c'est vrai que c'est plus une tendance maintenant, c'est vraiment une demande claire et nette qu'en été, on aimerait aussi aller au nord, mais le bassin méditerranéen, les pays méditerranéens restent quand même sur le podium.
Et autre destination, les États-Unis. Vous observez un ralentissement de la demande pour les États-Unis. Ils attirent moins depuis le retour de Donald Trump à la présidence.
Alors c'est un tout petit peu précoce comme analyse, mais effectivement il y a certains éléments qui font que maintenant il faut que ça se lisse un petit peu au niveau de la politique, la géopolitique. Notre secteur d'activité est toujours tenu par la géopolitique, par le sanitaire, par un volcan qui explose, etc. On n'a pas encore assez de recul, mais on voit qu'il y a quand même un petit recul, ce qui fait que on le constate encore pas vraiment de manière forte, c'est que les réservations qui avaient été faites pour les États-Unis, c'est des réservations qui se font longtemps à l'avance. Donc là on aura plus de visibilité sur les mois à venir.
Mais il peut y avoir des vrais risques pour les voyageurs qui s'y rendent aux États-Unis.
Alors des vrais risques, dès qu'on aime le voyage, on prend de toute façon un risque à quelque part, mais on s'enrichit énormément. Ce qu'on a comme chance, c'est que de nouveau, comme je le disais, c'est le taux du franc suisse, le taux du dollar. Malheureusement, aux États-Unis, ils ont augmenté beaucoup de prestations, que ce soit les entrées dans les parcs naturels, les prestations hôtelières, et j'en passe des meilleures. Donc ça pondère un petit peu, mais le pays est devenu quand même un peu plus cher pour la clientèle suisse.
Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, merci d'être passer un instant dans Sous-30. Vous aurez le temps de prendre un peu de vacances, vous. Vous partirez où?
Oui, alors moi je vais partir. Déjà, je pars dans très peu de temps sur la France, mais au sud. Donc c'est pas non plus super sexy, mais on y trouve des bonnes valeurs et des bons endroits. Et puis après, on va faire un petit tour en Méditerranée.
Bon, bonnes vacances et bon après-midi à
merci
vous,
pareillement.
Stéphane Jaillet. Merci. Les exportations horlogères ont progressé de 18% en avril, portées par les envois en hausse vers les États-Unis, plus 149%. Une explosion qui s'explique par les craintes autour des droits de douane américains. La Fédération de l'industrie horlogère suisse précise donc que ce pic d'exportation d'avril reflète davantage une réponse ponctuelle à un contexte commercial incertain, plutôt qu'à un véritable signal de renforcement structurel de la demande. On ouvre une page politique à présent, en commençant par nous rendre à Neuchâtel. Pour accompagner les 5 membres du Conseil d'État neuchâtelois et les députés élus jusqu'au château, les nouvelles autorités ont prêté serment ce matin avant d'entamer la nouvelle législature. Romain Bardet, on vous retrouve à Neuchâtel. Comment s'est déroulée cette matinée?
Eh bien, de manière très protocolaire, hein. À 9h15, le gouvernement et les membres du Grand Conseil sont partis de l'hôtel de ville pour rejoindre la colline du château. Tout cela dans le calme et une ambiance plutôt bon enfant, hein, même si on a vu épingler sur les vêtements de plusieurs députés de gauche un drapeau palestinien. Une cérémonie religieuse a ensuite débuté dans la collégiale, juste à côté du château. Une partie des élus du Grand Conseil, très majoritairement de gauche, ont refusé d'y participer, la considérant d'un autre temps. Musique, prière, lecture biblique ont ponctué cette cérémonie de près d'une heure avec un message très clair à l'attention des autorités. Tout comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples, être ministre, ce n'est pas être grand parmi le peuple, c'est être au service du plus petit. Puis 6 coups de canon ont été tirés depuis l'esplanade, les 2 derniers allumés par le nouveau président du Grand Conseil, le vert Émile Blanc, et la nouvelle présidente du Conseil d'État, la PLR, Christelle Graff.
Et puis Romain, les nouveaux élus ont rejoint la salle du Grand Conseil.
Exactement, les députés ont pu s'installer dans leur siège. Ils ont d'abord formellement validé les élections du mois de mars, avant de prêter serment l'un après l'autre. Idem pour le Conseil d'État, dont la nouvelle arrivée, la verte Céline Vara. Un gouvernement qui bascule donc à gauche et un Parlement où cette même gauche détient pile la moitié des sièges. Ce n'est pas un hasard, hein, si dans son discours, le nouveau président du Grand Conseil a mis en garde contre la polarisation dans cet hémicycle où bloc de gauche et bloc de droite se sont renforcés.
Merci Romain Bardet en direct de Neuchâtel. Et puis de la politique encore à Genève avec la course qui est lancée pour l'élection au Conseil d'État prévue en septembre. Il s'agit de remplacer le vert Antonio Hodgers avec un premier candidat officiel. L'UDC a validé hier soir la candidature de son président Lionel Dujardil. Anouk Pernet, vous êtes à Genève. Alors le parti estime avoir une légitimité naturelle pour briguer ce poste.
Oui, ses dirigeants ont rappelé ce matin leur bon score, que ce soit aux élections fédérales ou municipales. Le premier parti du pays a donc sa place au gouvernement genevois. Selon eux. Ils présentent donc leur président, Lionel Dujardil. Il était déjà candidat malheureux aux élections cantonales de 2023. Ce viticulteur très apprécié dans les campagnes revendique une fibre sociale et il dit vouloir mener un travail basé sur le concret plutôt que sur les nombreux règlements de l'État qu'il aimerait bien réformer.
Est-ce que Lionel Dujardil a ses chances ?
Alors tout dépend du reste de la droite. Le PLR a déjà annoncé qu'il ne présenterait pas de Poulain et qu'il soutiendrait une candidature de droite à condition qu'elle s'engage pour le programme commun qui avait été concocté pour les élections cantonales de 2023. Aucun problème pour l'UDC qui a souligné sa loyauté ce matin. On attend encore sur les autres partis de droite. Le Bloc du Centre et le MCG n'ont pas encore annoncé s'ils présentaient ou non un candidat. S'ils le font, ça disperserait une nouvelle fois les voix de l'électorat de droite et ça pourrait profiter à la gauche. Pour l'heure de ce côté-ci, seul le conseiller national vert Nicolas Valder a annoncé sa volonté de briguer le siège gouvernemental, mais il doit encore être confirmé par le parti. L'Assemblée générale aura lieu le 11 juin. D'autres candidatures pourraient sortir du bois d'ici là.
Et l'élection pour remplacer le vert démissionnaire Antonio Hodgers aura lieu, on le rappelle, le 28 septembre prochain. Et pour les autorités politiques, notamment, un des défis du moment, c'est le deal de rue, difficile à endiguer. Hier soir, une table ronde réunit ces différents acteurs concernés à Yverdon. Parmi eux, Franck Zobel, le directeur adjoint d'Addiction Suisse, invité dans notre matinale ce matin. Il relevait l'importance en ce moment du marché de la cocaïne.
Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un marché de la cocaïne foisonnant, probablement presque avec une suroffre. Et on a effectivement beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de vendre cette drogue. On peut suivre, si vous voulez, depuis l'Amérique latine, depuis les pays de production, jusque chez nous, une espèce d'augmentation de la production, une hausse de la pureté, une baisse des prix qui est historique.
Comment ça s'explique ?
Ça s'explique d'abord par la production qui a augmenté. Je crois que la dernière estimation de l'Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, c'est 3000 tonnes produites en 2022. Ensuite, c'est des saisies énormes. On sait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation des échanges aussi, les biens comme les drogues circulent beaucoup mieux qu'avant, très facilement. Et puis, vous avez une valeur ajoutée dans ce type de produit, qui est le fait de la prohibition, qui est absolument incroyable. On avait calculé ça en 2018, que si vous voulez, la quantité de cocaïne qu'on estimait consommer par jour dans le canton de Vaud, elle valait 1000 francs au départ, la sortie du labo en Colombie, elle valait 150 000 francs en rue à Lausanne. Et ça, vous allez toujours trouver des gens, surtout si vous traversez des pays pauvres ou comme ça, qui vont être d'accord de participer à des trafics comme ça.
Franck Zobel, interrogé par Pietre Bugnon, c'était ce matin dans notre matinale. Soutien à l'Ukraine, critique envers Israël. En quelques semaines au pouvoir, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a imprimé sa marque à la politique étrangère de l'Allemagne, n'hésitant pas à bousculer les tabous. À Berlin, Nathalie Versieux.
En une interview, Friedrich Merz a fait voler hier en éclats les principes de la diplomatie allemande, ceux-là même qui faisaient de l'Allemagne sur le terrain diplomatique un nain politique, loin de la place qui pourrait lui revenir en raison de son poids économique. Le nouveau chancelier cède ainsi aussi aux attentes de ses partenaires européens. Convaincu que l'Allemagne ne peut plus faire cavalier seul, Merz veut augmenter les dépenses militaires de son pays jusqu'à 5% du PIB. Hier, il mettait fin aux restrictions de portée pour les armes livrées à l'Ukraine. Elles pourront à l'avenir viser des cibles militaires en Russie. Son prédécesseur Olaf Scholz s'y était toujours opposé. Autre tabou, le soutien inconditionnel à Israël. Friedrich Merz a vivement critiqué les attaques contre les civils de Gaza. Israël ne peut plus faire ce que ses meilleurs amis ne sont pas prêts à accepter, a-t-il déclaré, une mise en garde inédite de la part d'un gouvernement allemand. Nathalie Versieux, RTS Berlin.
En France, l'ancien maire de Paris, Jean Tiberi, est décédé à l'âge de 90 ans, dernier édile de droite de la capitale. Il avait succédé en 1995 à Jacques Chirac, dont il était un grand fidèle, avant d'être battu en 2001 par le candidat socialiste Bertrand Delanoë. C'est désormais inéluctable. Le moustique-tigre va se répandre dans toute la vallée du Rhône. Les autorités valaisannes l'ont annoncé ce matin. Sa population augmente sensiblement dans le Bas-Valais. Un moustique qui peut être vecteur de maladies infectieuses comme le virus Zika, la dengue et le chikungunya. En Suisse romande, sa présence a été pour l'instant enregistrée dans les cantons de Vaud, Berne, Genève et donc le Valais. Et pour éviter des épidémies, plusieurs cantons romands demandent à la population qu'elle signale tout moustique suspect et surtout qu'elle adopte les gestes adéquats. Écoutez Camille Pitlou, biologiste au service valaisan des forêts, de la nature et du paysage.
La population doit prendre le réflexe de vider toute petite accumulation d'eau. Ça peut être des arrosoirs, des soucoupes de pots de fleurs, des bâches peuvent des fois contenir de l'eau, des systèmes de récupération d'eau de pluie. S'ils ne sont pas fermés hermétiquement, ça peut également être des gîtes à moustiques-tigres. Et contrairement à ce que de nombreuses personnes croient, le moustique-tigre ne s'établit pas dans des biotopes naturels car il y a des prédateurs et de la compétition et il ne peut pas survivre dans ces milieux-là. Par contre, dans des petites accumulations d'eau mimées par ces pièges-là, il peut très bien s'établir et se reproduire.
Des propos recueillis par Flore Ducet et Mathias Deletro. Dans le Haut-Valais, les fractures dans le glacier qui surplombe Blatten augmentent de manière significative selon les autorités. Une grosse avalanche s'est produite la nuit dernière avec un mélange de glace, de roche, de neige et d'eau, mais sans atteindre le fond de la vallée. Un nouveau vol de reconnaissance est prévu aujourd'hui et une deuxième caméra doit être installée, ce qui permettra d'évaluer de manière plus détaillée les mouvements et l'aspect des crevasses sur le front du glacier. En tennis, tous les qualifiés pour le deuxième tour de Roland-Garros seront connus ce soir. Et parmi les joueuses attendues aujourd'hui, il y a Once Jabeur. Bernardin Alemann, on vous retrouve à Paris. La Tunisienne essaye de retrouver son niveau d'il y a quelques années tout en faisant la promotion du tennis dans le monde arabe.
Oui, Once Jabeur a vécu de grands moments, trois grands moments, on va dire, de sa carrière. Des moments qui se sont aussi transformés en crève-cœur, parce qu'à trois reprises, elle s'est retrouvée de la position d'être la première joueuse du monde arabe vainqueur en Grand Chelem. Mais ses deux finales à Wimbledon et une troisième à New York se sont achevées sur des échecs. Retombée désormais au 36e rang mondial, Jabeur continue d'y croire et surtout de continuer à jouer son rôle inofficiel, évidemment, de ministre tunisienne du bonheur. En tout cas, elle espère que le tennis trouve de plus en plus sa place dans le monde arabe. Once Jabeur.
Il y a un bon progrès. On voit de plus en plus de joueurs. Mais moi, je trouve que les fédérations doivent faire un travail encore plus poussé et encadrer mieux les joueurs. Il faut une meilleure structure pour qu'ils pensent pas à l'argent ou aux sponsors ou comment payer le coach. Il faut vraiment bien encadrer. Les talents, il y en a. Pourquoi pas avoir une bonne fédération, je ne sais pas où, Égypte, Tunisie, dans le Moyen-Orient, on ne sait pas, mais je suis sûr qu'on peut vraiment aider sur ça.
Voilà, le message est clair. Once Jabeur qui va jouer tout à l'heure face à la Polonaise Magdalena Frenner.
Et dans les autres affiches du jour à Paris, qui est particulièrement attendu?
Mais écoutez, toujours côté féminin, on se réjouit de voir l'entrée en lice de Coco Gauff, forcément très attendue, et puis de l'autre américaine Jessica Pegula. Et puis chez les hommes, le vainqueur de Genève, Novak Djokovic, et puis surtout le britannique Jack Draper, 5e mondial et finaliste sur terre récemment à Madrid.
Merci Bernard Lehmann en direct de Roland-Garros, un tournoi à suivre sur les différents vecteurs de la RTS. L'agence spatiale européenne a désormais un pied-à-terre en Suisse. L'ESA inaugure aujourd'hui son centre d'innovation en technologie spatiale basé à Villingen en Argovie. Son nom, l'ESDI pour European Space Deep Tech Innovation Center. Son objectif, c'est de promouvoir le développement des technologies dans la recherche quantique, les sciences des données et les sciences des matériaux. Joseph Aschbacher, directeur général de l'Agence spatiale européenne, explique pourquoi la Suisse a été choisie.
Nous avons choisi la Suisse pour le Centre d'innovation en technologie spatiale parce que la Suisse possède une expertise et des capacités que nous ne trouvons pas facilement dans les autres pays membres de l'ESA. Les PFL, les PFZ sont des institutions de rang mondial dans les technologies quantiques, dans l'intelligence artificielle, les matériaux technologiques et les sciences des matériaux. Et c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin dans l'espace pour le futur. Prenons les technologies quantiques comme exemple. La détection quantique nous permet de définir des mesures de gravité avec une précision au moins 10 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Cela signifie que vous pourriez en fait détecter les liquides ou quoi que ce soit d'autre sous terre avec une précision bien plus grande. C'est donc quelque chose que je vois venir comme une future percée technologique et sera un futur moyen de mieux comprendre comment notre planète fonctionne.
Des propos recueillis par Olivier Descibourg.
Le 12-30, Guillaume Rey.
Une bande dessinée sur l'intelligence artificielle, c'est le nouveau livre signé RJ pour le centre Lern de l'EPFL. Il est sorti il y a quelques jours, une plongée presque philosophique dans l'IA et les questions qu'elle pose, en particulier ici sur le plan climatique. Bonjour RJ.
Bonjour.
Et bonjour également à vous Sonia Grébi du centre Lern de l'EPFL. Vous avez coordonné ce projet.
Oui, c'est ça.
Cette BD s'appelle Utopia, avec IA en majuscule. J'ai prononcé juste, Sonia Grébi?
C'est juste.
Alors Utopia, c'est donc l'histoire d'Aïcha, étudiante en intelligence artificielle, qui est convaincue que l'IA, c'est la solution miracle pour stopper la crise climatique. Et puis il y a Félix, son ami, qui pense lui que l'IA ne va faire qu'empirer les choses. On suit leur parcours très didactique pour avoir des réponses concernant leurs désaccords. C'est une prof assez déjantée, on dira, qui se charge de les accompagner. Hergy, la thématique, ça vous a tout de suite parlé?
Alors, c'est un sujet que je connaissais vraiment très peu, comme la majorité des gens jusqu'à maintenant, j'imagine. Je l'ai aussi pris comme un défi, du coup, de pouvoir un peu plonger dans un univers complètement nouveau. Et de l'excitation et de l'appréhension aussi.
C'est bien le centre Lern de l'EPFL qui vous a approché, c'est juste?
Exactement, il y a environ 2 ans.
Alors Sonia Grébi du centre Lern, vous avez coordonné ce projet, on l'a dit. L'objectif derrière une telle BD, c'est quoi? C'est de la vulgarisation? C'est un support pédagogique?
C'est ça, on voulait faire de la vulgarisation scientifique sur un aspect ou des aspects de l'IA dont on parle peut-être pas suffisamment, et de mettre en lumière toute cette face cachée qui touche à l'IA et tous ces enjeux environnementaux qu'il y a derrière.
Et pourquoi la BD comme support alors?
On trouve intéressant ce format pour 2 raisons. D'un côté, c'est un support pédagogique assez intéressant à utiliser en classe avec les élèves sous différentes déclinaisons, mais aussi un format intéressant pour répondre à une autre mission qu'on a, qui est celle de la médiation scientifique, donc faire en sorte que le contenu soit accessible à un plus grand nombre.
En classe avec les élèves, ça veut dire que ça s'adresse à quel public, dès quel âge on peut lire ce livre sur l'IA, qui est tout de même pas une matière hyper simple quand on est tout jeune?
Alors, au début, on visait plutôt le secondaire 2, mais finalement, on se rend compte que au secondaire 1, ça peut être utilisé, évidemment, avec des supports qu'on a conçus pour accompagner l'utilisation de la BD. Et puis, évidemment, la lecture, elle se fera différemment si on est plutôt du secondaire 1 ou du secondaire 2.
RJ, dessinateur genevois. En 2022, votre deuxième BD s'appelait « Ici l'univers, voyage en astrophysique » avec Michel Mayor. Maintenant, l'intelligence artificielle, ça vous plaît, ce côté scientifique?
Oui, alors moi j'ai clairement un goût pour la vulgarisation en BD. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Je suis arrivé au dessin par le dessin de presse, qui est finalement assez, je trouve, assez semblable à la vulgarisation. Donc oui, c'est clairement quelque chose que j'aime faire, d'essayer de plonger moi-même dans un sujet que je connais pas et essayer de donner les clés au public pour comprendre ce que j'ai péniblement compris.
Et comment s'est passée cette collaboration avec le centre Lern? Quelles étaient les règles du jeu?
Alors les règles, c'est qu'on m'a fourni en amont un texte théorique, un socle théorique, disons, la matière scientifique à traiter selon ce comité scientifique, et à partir de là j'ai créé un scénario qui devait s'adapter donc en bande dessinée, qui a été discuté avec le comité, qui a fait l'objet de quelques modifications. Et au fur et à mesure, on a pu boucler un scénario qui convenait à tout le monde, et j'ai pu commencer le travail de dessin effectif.
Alors avec des relectures scientifiques, on peut dire ça comme ça, Sonia Grébi?
Oui, effectivement, donc on a mis en place dès le départ un comité scientifique qui rassemblait des spécialistes ayant des expertises différentes. Comme c'est un sujet qui est complexe et qui touche à beaucoup de sous-domaines, c'était important pour nous qu'il y ait des expertises qui soient complémentaires pour avoir un socle solide.
Alors ce livre Utopia est assez didactique, on l'a dit, très imagé, il y a de l'humour aussi avec une experte IA très excentrique. Vous vous êtes fait plaisir aussi sur les jeux de mots RJ1 pour évoquer par exemple Jeff Bezos ou Elon Musk. Vous vouliez amener cette légèreté finalement pour faire passer le message?
Oui, alors c'est certain que dans la vulgarisation, je pense que l'humour joue un grand rôle. Ça permet de faire glisser les infos un peu plus facilement, surtout sur un sujet qui est finalement assez technique, assez complexe et un peu abstrait. Donc créer des personnages attachants et de réussir à allumer l'attention des lectrices pour dans une bande dessinée, c'est par l'humour, ça marche très bien.
Ce livre se lit un peu comme un voyage. On découvre d'abord le monde magique d'Utopia, rempli de technologies qui peuvent nous aider, pourquoi pas, à avoir une meilleure efficience. Et puis juste après, on voit l'envers du décor, les mines d'où sont extraits les métaux rares, indispensables à cette technologie, les data centers. Cette notion de voyage, c'est vraiment comme ça que vous l'avez voulu, Hergé?
Alors, j'ai assez vite senti qu'on aurait besoin j'aurais besoin de montrer vraiment les deux faces, les deux côtés de la médaille. Disons que c'était important de pouvoir incarner aussi les concepts dont on parle des vrais environnements. Donc Utopia, c'est une espèce de parc d'attractions pro IA où tout est parfait, magnifique, propre et léger. Et voilà, le pendant de ça, c'est le backstage, les mines, tous les impacts écologiques que ça peut avoir. Et j'ai pensé que emmener les personnages vraiment dans ces environnements-là, au milieu de tout ça, c'était la manière la plus efficace de réussir tout ça.
Et puis à la fin du livre, on comprend que c'est pas tout noir ou tout blanc, mais que ça dépend de ce qu'on va faire finalement de l'IA, de ce qu'on va y mettre, de comment on l'utilise, de comment on l'encadre. C'est finalement ça la morale du livre, Sonia Grabi.
Effectivement, donc d'apporter une vision, comme disait Hergé, assez nuancée, puis finalement de se rendre compte qu'il faut agir, mais il n'y a pas une solution miracle, mais peut-être plusieurs solutions, et en fonction de comment on gère et on va gérer les prochains mois et les prochaines années l'IA.
Il y a un message presque politique aussi, pour que nos dirigeants ne laissent pas en main d'entreprises commerciales cette intelligence artificielle finalement.
C'est ça, c'est le message avec lequel se termine la BD.
Et puis, chacun à son échelle a quand même un rôle à jouer dans son utilisation du numérique, dans la réflexion sur ce qu'amène vraiment l'IA pour telle ou telle tâche, finalement. Vous n'avez pas voulu culpabiliser le lecteur, mais finalement, chacun peut jouer son rôle.
Alors, effectivement, on voulait pas du tout culpabiliser le lecteur. Ce qu'on voulait surtout, c'était apporter des éléments de compréhension et des éléments de réflexion pour qu'on puisse en faire un usage éclairé, qu'on ait conscience de ce qu'on utilise et d'arriver avec un discours peut-être un peu différent du discours omniprésent dans la société aujourd'hui.
Et vous-même, RJ, de participer à la conception d'un tel livre, est-ce que ça vous a fait réfléchir à votre propre usage de l'intelligence artificielle et du numérique?
Bon, alors mon usage, il est extrêmement restreint quand même. J'ai pas encore pris l'habitude, ou je sais pas si je prendrai un jour l'habitude, mais moi, dans mon travail, j'ai assez peu besoin de tout ça. Et c'est vrai que même s'il faut y réfléchir d'un point de vue individuel, c'est vrai que la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va réussir à contrôler d'une innovation aussi puissante et importante que ça. Qu'il faut assez vite diriger vers l'intérêt général et pas que les intérêts privés.
L'intérêt général et pas les intérêts privés. La BD s'appelle donc Utopia. Elle est sortie le 20 mai. Merci Hergé, auteur donc de cette BD, de ce livre. Merci à vous aussi, Sonia Grabi du Centre Lerne de l'EPFL. Merci. Vous avez coordonné ce projet. Une très belle suite de journée à tous les deux.
Merci.
Bonne journée, merci beaucoup.
Et nous, on passe à la météo. Bien ensoleillé en plaine aujourd'hui, il fera 21 degrés au mieux cet après-midi avec un faible vent d'ouest à nord-ouest. Demain, assez ensoleillé le matin en vallée autour du Léman et dans les Préalpes, seulement en partie ensoleillé sur le nord de la région. L'après-midi, le ciel deviendra plus nuageux, maximum 18 degrés jusqu'à 22 en vallée et à Genève. Et puis jeudi, encore quelques nuages résiduels en début de journée, surtout en direction du nord, puis rapide passage à un temps bien ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés, maximum 23 degrés.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
C'est la fin de ce 12-30. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes qui m'ont accompagné, à la technique Damien Barrière-Constantin, Jonah Dubois et Kianou Cambon-Aguémon, à l'édition Margot Fontaine, Vive Curtas. Demain, ce sera Blandine Lévite pour le 12-30. Une très belle après-midi à toutes et tous. Il est 13h.